Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Amigo Didier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. Dans les régions productrices de cacao et de café en Côte d'Ivoire, on déplore les carences des infrastructures.
Les régions de Saint-Pédro, Boclair et Nawa sont les grandes productrices de café et de cacao de la Côte d'Ivoire. Elles totalisent à elles seules la moitié des productions agricoles d'exportation du pays. Mais pour y parvenir, que des difficultés.
On suivra un reportage de Germaine Dri. En pays Ogoni, dans le sud du Nigeria, certains souhaitent la reprise de l'exploitation pétrolière qui a pourtant ravagé la région.
En 1993, le peuple Ogoni avait dit « ça suffit ». S'élevant contre l'extraction du pétrole sur ses terres, au motif de la destruction de l'environnement que cela entraînait.
Jacques Aristide aura tous les détails et il faut que la croissance économique soit plus inclusive en République démocratique du Congo, affirme le Fonds monétaire international. Côte d'Ivoire, à l'issue d'une visite officielle de plusieurs jours dans le district du Bas-Sassandra, le président Alassane Ouattara a annoncé à San Pedro qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, voire plutôt une baisse, indique l'APA. Lors d'une conférence de presse, M. Ouattara a estimé que le pays était doté d'un des meilleurs cadrages macroéconomiques dans le monde. « Nous entendons maintenir ces bonnes performances », a-t-il souligné, ajoutant vouloir baisser les impôts au fur et à mesure que la base imposable va s'améliorer, selon ses termes. Il a par ailleurs dit souhaiter convaincre les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de permettre un début de baisse des droits de douane. Dans les régions productrices de café et de cacao, où s'est rendu le chef de l'État, les préoccupations des populations tournent autour de la sécurité, la cherté de la vie et surtout les mauvaises routes qui constituent un frein pour l'écoulement rapide des produits. Pour plus de précision, on écoute Germaine Dri, correspondant de La Voix de l'Amérique en Côte d'Ivoire.
Les régions de San Pedro, Boclair et Nawa sont des grandes productrices de café et de cacao de la Côte d'Ivoire. Elles totalisent à elles seules la moitié des productions agricoles d'exploitation du pays. Mais pour y parvenir, que des difficultés. Adissi Modeste, planteur de cacao.
Il n'y a même pas de route. Les pistes, nos parents qui vont en brousse pour faire sortir leurs produits. Pas d'accès, les véhicules ne peuvent pas rentrer. Les produits sont là-bas.
La cherté de la vie est aussi une préoccupation des habitants. Kwaku Fabrice.
La vie est chère ici par rapport à la nourriture même est un peu élevée ici, les prix des choses. En général, tout ce qui concerne la vie même à Saint-Pédro est cher. Donc si on peut essayer de revoir les prix des choses et puis baisser un peu les prix.
Gion Lass estime que de bonnes routes peuvent régler la cherté de la vie.
C'est normal que tout doit être cher parce qu'il n'y en a pas route. Tous ceux qui vont quitter en brousse pour venir, il n'y en a pas route pour faire venir tous les marchandises, tous les manger. C'est pour cela tout à Saint-Pédro est cher.
Les coupeurs de route constituent un autre phénomène qui inquiète.
Les coupeurs de route, bon, ça ne finit jamais. On les prend, mais ils reviennent à tout moment.
Les gens vont en brousse, ils sont là, ils sont tués, ils sont dépouillés de leurs biens. Bon, on ne comprend plus rien.
À Tabou, ville située à 35 km du Libéria, les autorités ne baissent pas la garde contre la fièvre à virus Ebola.
Toubaté Iné Georges. C'est vrai que Tabou est la porte de sortie et la porte d'entrée pour la population libérienne qui se trouve de ce côté. Mais la population et les autorités ont donné quand même le mot d'ordre pour que nous soyons quand même à l'abri de toute surprise désagréable.
La maladie a divisé des familles.
Abiré Félix, je suis de Dolenke, j'ai affaire d'Ebola. Quand nous inquiète, j'ai marié une fille libérienne, mais je ne peux même pas traverser pour aller au Libéria, parce que tout a été fermé. Ma femme a perdu son papa, mais jusqu'à l'heure, on n'a pas encore parlé.
Pour toutes ces entraves énumérées, le chef de l'État a annoncé que les dispositions seront prises pour améliorer les conditions de vie des populations du Bas-Sassandra. Alassane Ouattara.
Ce que nous avons fait est insignifiant. Je prends l'engagement que nous allons accélérer ces travaux pour améliorer vos conditions de vie ici dans cette région de la Côte d'Ivoire. La sécurité est la clé de la paix. Soyez tranquilles, dormez tranquilles. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour rétablir la paix et la sécurité dans cette région.
Germaine Dri, San Pedro, VOA Afrique.
Camille Grodidier, je vous accompagne pour cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. La croissance économique en République démocratique du Congo ne profite pas à toute la population, a rappelé le Fonds monétaire international à l'occasion de la visite dans ce pays de David Lipton, premier directeur général adjoint du FMI. Le point avec Michel Joseph.
À l'occasion de sa récente visite, le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, FMI, David Lipton, s'est certes félicité de l'état de l'économie congolaise, saluant notamment sa croissance. Mais il a estimé que de nombreux obstacles restent à surmonter pour s'assurer que cette croissance soit plus généralisée et plus solidaire. La croissance a atteint ces dernières années un taux de 9%, a rappelé M. Lipton, soit l'un des taux les plus élevés au monde. L'inflation a été jugulée, mais l'administration Kabila doit mobiliser des recettes intérieures pour permettre les investissements appropriés dans les secteurs sociaux. Elle doit aussi combler le déficit d'infrastructures pour poser les jalons de la croissance future et développer le secteur financier pour qu'il puisse pleinement contribuer à financer le développement dans le pays, a martelé le haut responsable du FMI. Monsieur Lipton a également jugé primordial que le gouvernement poursuive les réformes qui visent à améliorer le climat des affaires en assurant le plein respect de la suprématie du droit tout en consolidant la gestion des ressources naturelles par l'amélioration de la transparence et de la gouvernance. Il a aussi évoqué la récente baisse des cours du cuivre et les risques qu'elle représente pour l'économie de la RDC.
Vous êtes à l'écoute du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique au micro Camille Grosdidier. Il y a une vingtaine d'années, le peuple Ogoni a forcé le géant du pétrole Royal Dutch Shell à mettre fin au forage sur ses terres au Nigeria. Il imputait à ces forages la responsabilité de la pollution croissante de la région. Mais aujourd'hui, certains Ogoni estiment qu'il est temps de reprendre l'exploitation pétrolière. Jacques Aristide.
En 1993, le peuple Ogoni avait dit « ça suffit ». S'élevant contre l'extraction du pétrole sur ses terres, au motif de la destruction de l'environnement que cela entraînait, ainsi que du manque de partage des richesses de l'or noir. Le mouvement pour la survie du peuple Ogoni, le MOSOP, est né vers 1990 dans le sud du Nigeria, dans le but de défendre les intérêts du peuple Ogoni face aux abus commis par la Royal Dutch Shell et le gouvernement nigérian. Il s'était fait connaître par son chef charismatique, Ken Saro-Wiwa, qui serait pendu en 1995 sous une dictature militaire de Sani Abacha en représailles pour son activisme. L'exploration pétrolière a transformé le pays Ogoni en immense terrain vague, déclarait Ken Saro-Wiwa en 1992. Les terres, les rivières et les ruisseaux sont en permanence entièrement pollués. L'atmosphère est empoisonnée, chargée de vapeurs, d'hydrocarbures, de méthane, d'oxyde de carbone et de suie rejetée par les torchères. Mais 20 ans après la mort du prix Nobel alternatif, certains Ogoni pensent qu'il est temps de reprendre la production. Parmi eux, Donal Keberesu, chef de la localité de Kebgaradere.
Cela va générer des emplois. Cela va certainement intéresser nos jeunes. Et vous savez, là où il y a de l'argent, les gens peuvent avoir accès à une bonne éducation, à une bonne alimentation ou des logements adéquats.
Depuis le départ de Shell, la région est restée polluée. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, il faudra jusqu'à 30 ans pour nettoyer les dégâts provoqués par l'exploitation pétrolière. Ce qui fait dire à certains Ogoni qu'il faudrait peut-être résoudre cette question avant de relancer la production. D'autres font valoir qu'elle ne saurait reprendre sans profiter aux populations locales.
Nous allons prendre un nouveau départ parce que nous allons négocier. Vous me donnez ce que je veux et je fais de même.
Entre-temps, sur le terrain, les courants d'eau restent contaminés par le pétrole, comme c'était le cas dans les années 1990, du temps du militant Saro-Wiwa.
Vous êtes à l'écoute du magazine de l'économie de la Voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous, fin dimanche à Niamey au Niger, du deuxième salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'environnement et de l'élevage, le Sahel Niger 2015. Ce salon qui visait à valoriser et promouvoir le monde rural au Niger est une initiative des organisations paysannes pour faire connaître davantage leurs travaux et susciter chez les autorités plus d'attention vers le secteur. Il consistait en l'exposition-vente des produits agros sylvopastoraux et halieutiques, signale notre correspondant sur place Abdulrazak Idrissa. Le salon a accueilli plus de 340 stands et quelques 40 000 visiteurs ont fait savoir les autorités. Nathalie Barge a joint sur place l'une des participantes au salon, Madame Saa Malam Haruna, chargée de programme au sein de la Fédération des unions de coopératives de producteurs de riz Foucault-Prix Niger, engagée dans la campagne Cultivons.
On a fait des actions de visibilité, on a organisé des foires pour faire connaître le produit, notamment le riz que nous produisons à travers les membres du réseau Foucault-Prix. Il y a aussi un autre mouvement, campagne Cultivons. Nous faisons partie du réseau Cultivons. Et à travers Cultivons, il y a des actions qui sont en train de faire même pour que même le gouvernement, l'État, s'intéresse à ce que nous faisons.
Combien y a-t-il de femmes d'écumeuses de riz au sein de la fédération au Niger?
En tout cas, présentement, nous avons une union départementale des femmes écumeuses qui sont dans le réseau Foucault-Prix. Et ces unions-là totalisent 26 groupements des femmes écumeuses. Et ces 26 groupements ont environ 1500 femmes à la base.
Madame Saa Malam Haruna, chargée de programme au sein de la Fédération des unions de coopératives de producteurs de riz, Foucault-Prix Niger, engagée dans la campagne Cultivons. Elle était jointe par Nathalie Barge. Ici Washington, on enchaîne cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie avec la dernière invention de la société Apple. Le géant de la technologie a dévoilé officiellement sa montre connectée, l'Apple Watch, à San Francisco, en Californie. Déclinée en trois modèles, cette montre à l'écran tactile permettra de téléphoner, d'échanger des SMS ou encore d'écouter de la musique et bien sûr de consulter l'heure. Une montre haut de gamme puisque le premier modèle sera commercialisé à $350. C'est une nouveauté très attendue par les fans de la marque, comme en témoigne Ludovic Gaulion, coéditeur du site Geeks & Com.
C'était un petit peu l'aboutissement de tout le teasing qu'a fait Apple durant les derniers mois au niveau de sa montre. C'était l'occasion aujourd'hui de confirmer un peu l'ensemble des fonctionnalités, les différents prix, puis la date de sortie. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'attendaient beaucoup, en particulier les possesseurs d'Apple et les amateurs de la marque, pour savoir un petit peu quand est-ce qu'ils allaient pouvoir mettre autour de leur poignet la nouvelle montre.
Alors, quelles ont été pour vous les bonnes et les mauvaises surprises?
Les bonnes surprises, c'est que Apple a confirmé un petit peu tout ce qu'il nous avait laissé entendre au niveau des fonctionnalités. Donc, effectivement, on va pouvoir prendre des appels, répondre, faire des messages textes, des SMS et avoir accès à des applications sur la montre. Donc, il n'y a pas eu de mauvaise surprise à ce niveau-là où Tim Cook n'est pas revenu sur ce qu'il avait dit. Qui est un petit peu plus, qu'il va falloir voir dans le futur, c'est qu'est-ce qu'on doit attendre vraiment au niveau de l'autonomie de la montre, parce que c'est la grosse question qui reste. Apple nous a dit qu'ils espéraient avoir une journée d'utilisation en moyenne, donc à peu près 18 heures pour la plupart des utilisateurs, mais il va falloir vraiment voir ça dès qu'on aura accès au premier modèle pour vérifier si effectivement on va pouvoir s'attendre à ça.
Est-ce que le clavier d'une montre en fait n'est quand même pas trop petit pour pouvoir ne serait-ce qu'envoyer un texto?
En fait, il n'y a aucune des démonstrations qui ont été faites qui faisaient appel au clavier. Tout se fait vraiment par la commande vocale avec l'aide de Siri. Donc, on peut répondre aux messages directement par la voix. Et ensuite, on a deux possibilités. Soit si on est satisfait de la transcription de texte qui a été faite de ce qu'on a dit à la montre, on peut l'envoyer tel quel. Ou sinon, on peut simplement envoyer le fichier audio de ce qu'on a prononcé. Donc, ça permet à la personne d'écouter directement notre réponse.
Et au niveau des prix, qu'en pensez-vous?
C'est sûr que ça a été un petit peu la surprise parce qu'il n'y avait rien qui avait été annoncé à ce niveau-là. Et on est quand même un petit peu comme souvent avec les produits Apple, au-dessus de ce qui se fait dans le marché aujourd'hui. Il faut savoir que le modèle d'entrée de gamme des Apple, qui va être la Apple Watch Sport, commencera à $349 américains. Donc quand on sait que la montre équivalente de Samsung se vend actuellement à peu près $200, on est quand même sur une montre qui est beaucoup plus haut de gamme au niveau du prix.
Et vous, vous allez vous en acheter une ?
J'ai définitivement envie de l'essayer, oui, pour pouvoir me faire mon opinion dessus.
Ludovic Gaulion, co-éditeur du site internet geeksandcom.com, qui était joint par Claire Morin-Gibourg.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, comment les nouvelles technologies sont en train d'aider l'Afrique à relever ses nombreux défis? L'Internet est-il abordable dans votre pays? A-t-il changé votre vie? Vos témoignages sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Ici Washington, Camille Grosdidier pour le magazine de l'économie. Un partenariat couvrant 5 pays africains permet de mieux comprendre comment les gouvernements approvisionnent les institutions publiques, notamment les cantines scolaires, en procédant à des achats d'aliments directement auprès des petites exploitations agricoles familiales. C'est ce que signale la FAO en insistant sur le rôle croissant que peuvent jouer les programmes d'achat d'aliments locaux de l'Afrique aux Africains dans la promotion de la production agricole locale et l'amélioration de la nutrition. On écoute Florence Tartanac, fonctionnaire principale en agro-industrie à la FAO, au micro de Muriel Sarr.
Le programme consiste à prendre avantage des projets d'alimentation scolaire pour s'approvisionner auprès de petits producteurs au niveau local. C'est un programme relativement limité en ressources, mais nous travaillons dans 5 pays d'Afrique, donc l'Éthiopie, le Malawi, Mozambique, Niger et Sénégal.
Quels sont les acteurs impliqués dans ce programme ?
Donc le premier acteur, c'est bien sûr les gouvernements de chaque pays, puisque en général, les repas scolaires sont fournis par les institutions publiques, les gouvernements, qui achètent sur les marchés locaux les produits qui sont donnés aux écoles. Et donc l'originalité de ce programme, c'est que au lieu d'acheter sur les marchés de gros, le gouvernement achète directement à des petits producteurs les aliments qui seront donnés dans les écoles.
Quels sont les résultats obtenus dans les communautés ciblées et quelles leçons avez-vous tirées des activités du programme ?
Les résultats sont relativement bons. On a travaillé en partenariat entre la FAO et le Programme alimentaire mondial. La FAO plus la partie production agricole, post-récolte, toutes les activités après récolte donc, et le PAM se chargeait d'acheter et de faire l'intermédiaire pour approvisionner les écoles. Donc cette collaboration, d'abord première leçon, a très bien fonctionné dans ce programme, et ensuite les producteurs ont été capables d'améliorer leur production, c'est-à-dire d'augmenter leur rendement dans la plupart des cas, et de vendre directement donc au PAM ou même dans certains pays directement aux écoles ou au gouvernement pour approvisionner les écoles.
Quelle est la différence entre le modèle PA brésilien et le programme africain ?
Bon, l'idée originale du programme, c'est vrai, c'était de transférer l'expérience brésilienne en Afrique. Bon, il faut quand même considérer que les conditions sont très différentes entre le Brésil et les différents pays africains impliqués. Donc, on a dû adapter en fonction de la législation de chaque pays, en fonction des conditions, en fonction aussi de l'organisation des producteurs pour être capable donc d'approvisionner les écoles. Donc, c'est pour ça qu'on a des modèles assez différents, quelquefois, du modèle brésilien. Mais c'était aussi l'idée d'apprendre sur ces différentes expériences et de voir quelles étaient les différentes possibilités.
Quelles sont les prochaines étapes du programme ?
Le programme va d'abord avoir une phase de documentation, donc de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, d'évaluation aussi, de voir l'impact du programme pour pouvoir le démontrer les effets bénéfiques au gouvernement. Et donc avec l'expérience que les gouvernements s'approprient ce programme et soient en capacité donc de le mettre en œuvre au niveau de leur pays, à un niveau plus large.
Et enfin, que pensez-vous de ce programme ? S'agit-il d'un projet prometteur ?
Oui, c'est un programme prometteur car à la fois il remplit l'objectif donc d'améliorer l'alimentation des enfants dans les écoles.
Florence Tartanac, fonctionnaire principale en agro-industrie à la FAO, ses propos étaient recueillis par Muriel Sarr de la FAO. Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier qui vous remercie de l'avoir suivi.